Accent d'Europe, Catherine Roland.
Sí, comprendo, porque no hay mucha diferencia, solo el cusqueño, que es alguna, o sea, hay palabras que no son iguales.
Bonjour à tous, c'est une étude de plus qui pointe du doigt les défaillances de l'école française. Parue le 19 mars dernier, l'enquête de l'OCDE démontre que la France est l'un des pays où la question de l'origine sociale et culturelle pèse le plus sur les résultats scolaires des enfants. Bien que plus motivés que la moyenne des élèves, les enfants d'immigrés réussissent moins bien. Alors pour essayer d'inverser la tendance, en France, un dispositif, Ouvrir l'école aux parents, permet depuis 2008 d'accueillir des familles d'origine immigrée pour des cours du soir, 4 heures par semaine, où l'on apprend le français, mais aussi les arcanes et les subtilité du système scolaire. Frédéric Lebel s'est rendu à l'un de ses ateliers dans une école du 20e arrondissement de Paris.
À l'heure où les jeunes élèves de cette école élémentaire quittent l'établissement, ce sont des étudiants d'une toute autre génération qui font leur entrée dans la classe. Deux fois par semaine, ces parents qui viennent du Bangladesh, de Thaïlande, du Pérou, du Chili ou encore d'Italie viennent apprendre, pas seulement le français, mais aussi l'école et son fonctionnement. Comment aider leur enfant dans cet univers qui ne leur est pas familier? Jenna Bouchard, enseignante.
Beaucoup de parents d'ailleurs à ce cours... Quand on fait les espaces de présentation au début de l'année, qu'on raconte un petit peu d'où l'on vient, ils nous disent « Moi, je ne suis pas allée à l'école. Moi, je n'ai rien à apporter à l'école. Je ne peux pas aider mon enfant. » Et on comprend aussi que les parents, du coup, ne s'autorisent pas forcément à venir à l'école parce qu'ils ne se sentent pas en capacité d'apporter quoi que ce soit. Or, on leur explique à travers ce dispositif, cet atelier, qu'ils ont tout à fait leur place dans l'éducation de leur enfant en tant que parents, qu'ils peuvent aider leurs enfants même s'ils ne maîtrisent pas à l'écrit un mot de français, juste en s'intéressant au travail de leur enfant, en ouvrant les cahiers. On leur explique, si pour l'instant vous ne savez pas en français, demandez comment s'est passée ta journée, raconte-moi. Vous pouvez leur demander aussi dans votre langue, mais en tout cas s'intéresser à sa journée.
Et voilà, il faut bien se souvenir, surtout de cette tournure qui commence par comment ou est-ce que, hein. Comment travaille-t-elle? Comment puis-je l'aider?
À ses côtés, Anthony Zumaglini, lui aussi professeur des écoles, assure le cours de conversation avec le groupe de niveau le plus faible, des parents migrants qui ont finalement peu de contact avec des Français.
Ces personnes-là, souvent, ont du mal à avoir des interlocuteurs. Elles vont rencontrer le boulanger à qui on dit une baguette s'il vous plaît, 1h10, merci, au revoir. Mais de vrais interlocuteurs avec qui discuter, avec passion, n'a pas un voisin ou une voisine compréhensif ou intéressé. Souvent, c'est parce que mais je ne parle avec personne. Je ne parle français qu'ici.
J'ai un peu difficile pour amis parler.
Dans le dispositif Ouvrir l'école aux parents, les cours ont pour but une meilleure intégration des parents à l'école. Tout l'apprentissage a donc toujours une répercussion pratique.
On travaille sur des documents authentiques, c'est-à-dire le cahier de correspondance, ou un chéquier, ou une carte d'identité. Et quand on est sur l'école, on travaille beaucoup sur le cahier de correspondance, le livret scolaire. On apprend à la fois à comprendre ce qui est inscrit dans un livret scolaire, ce que ça représente. Et on apprend aussi à faire une lettre à monsieur le directeur pour demander à ce que mon enfant reste à la cantine le jeudi et le vendredi, etc. À être plus autonome, même l'idéal d'être complètement autonome pour être en relation avec l'école. Le directeur, l'assistante sociale, le médecin, et de manière plus large après, avec la mairie, voire la préfecture.
Est-ce que vous avez entendu parler des classes de découverte? Oui? Les classes de mer, les classes de neige, tout ça, ça vous dit rien? Ou les classes transplantées, ça vous dit rien non plus?
Les codes de l'école sont pour ses parents aussi déstabilisants que les références culturelles qui ne sont pas les leurs. Les activités extrascolaires et ces fameuses classes de mère peuvent être source de stress.
On a des parents qui étaient même très très inquiets. Parfois même qui refusaient parce qu'ils ne savaient pas très bien ce dont ils retournaient. Par crainte en fait, ils refusaient le départ des enfants. Ils ne savaient pas exactement quel jour les enfants devaient partir ou aller revenir. Il y a des situations très très difficiles, avec une angoisse chez certains parents extrêmement forte.
Ça va, Jifa? Vous en sortez? C'est difficile? Alors regardez, Jifa.
Les bénéfices en termes de résultats scolaires pour les enfants sont difficiles à chiffrer, mais pour Jenna Bouchard, l'implication des parents déteint aussi sur leurs enfants et donc leur travail.
Quand on voit des mamans qui apprennent. Là, on a une maman qui apprend à écrire et à lire. Bah forcément, pour son enfant qui est dans ma classe, c'est une grande fierté. Et c'est aussi, bah, du coup, maintenant, je vais pouvoir aider ma mère. C'est aussi, je me mets dans une posture de, bah, à la maison, c'est pas forcément maman qui m'aide à faire mes devoirs, c'est aussi moi qui vais l'aider aussi à apprendre grâce à tout ce que j'ai appris en classe. Ça, c'est assez formidable de voir que c'était un petit garçon, notamment, qui avait des difficultés l'année dernière en CP, et qui en CE1, bah, voilà, au fur et à mesure de son travail, de ses efforts, et de la confiance qu'il a acquise aussi, et dans une posture maintenant aussi de je sais des choses et je peux les apprendre aux autres, donc que ce soit aux autres élèves de ma classe et aussi à ma famille.
Mon nom c'est Sheikh, je viens du Bangladesh. J'ai 12 enfants, premier il est 7 ans, deuxième j'ai 5 ans.
Vous voulez un diplôme?
Oui, très important aussi pour le travail parce que je ne parle pas bien français, avec collègues il est très difficile aussi.
Mais il y a un gros écart entre le A1 et le A2, vous avez vu? C'est beaucoup plus difficile le A2.
Dans ce cours du lundi soir, on ne maîtrise pas encore vraiment bien le français, oral, tout autant qu'écrit. Mais là, n'est pas tout à fait l'essentiel, Jenna Bouchard.
On a vu l'année dernière, sur 10 parents qui organisaient la fête d'école, on avait 7 parents qui venaient du cours de français. Donc c'est formidable parce que du coup, ça veut dire que chaque parent, quel que soit son niveau de langue, a confiance en l'école et a sa place à l'école.
Bonne soirée, Catherine.
Oui, merci.
Un reportage de Frédéric Lebel à l'école des parents. Marie-Rose Moreau est pédopsychiatre et surtout chef de file de l'ethnopsychiatrie. Elle défend justement ses élèves qui doivent combiner deux identités dans son ouvrage « Enfants de l'immigration, une chance pour l'école ». Elle a expliqué à Frédéric Lebel pourquoi la France n'arrivait pas à faire aussi bien que ses voisins européens pour l'intégration des enfants d'immigrés à l'école.
Il y a vraiment plusieurs facteurs. Le premier, c'est comment on considère leur bilinguisme, comment on considère leur différence d'histoire, leur différence de parcours. On pourrait dire, par exemple, avoir la possibilité de parler plusieurs langues, le soussou à la maison, le français à l'école, l'arabe dialectal avec ma grande famille, le français à l'école, quel que soit le degré de bilinguisme, même s'il est petit, même si je parle pas l'arabe dialectal parfaitement bien, c'est une chance. Parce que la réalité, c'est ça. C'est mieux d'avoir deux langues que d'en avoir qu'une. Et pour une raison qui est à la fois liée à la manière dont en France on se représente l'unité. Une seule république, une seule langue, une seule histoire.
Et est-ce qu'il y a des pays justement où on valorise cette deuxième langue?
Alors oui, il y a plusieurs pays en Europe qui servent de modèle. Il y a le Danemark où le bilinguisme est clairement considéré comme une chance et est intégré dans l'école comme un plus, c'est-à-dire on va faire des comparaisons, on va faire des cours d'histoire, on va faire un peu comme de la linguistique. Il y a des langues où il y a un jeu, il y a le sujet, il y a des langues où il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de sujet. Mais comment on fait? Comment ça se passe? C'est une sorte de regard de jeu comme ça qui, en fait, permet d'investir aussi la langue seconde. Donc, il y a le Danemark, mais j'ai pu, moi, me rendre aussi en Suède où, par exemple, j'ai vu des classes où arrivaient des enfants afghans, réfugiés, et où ces enfants étaient un peu traumatisés, blessés, un peu inquiets. Et pendant quelques mois, on leur permettait d'apprendre à lire et à écrire dans leur langue à eux, en mettant, en fait, des traducteurs et des professeurs de persan et de farsi et de pashtoun dans les écoles. Et ça ne posait aucun problème, c'était plutôt une sorte de sas où voilà, il y avait un jeu entre les langues et ces enfants, en quelques mois, ils étaient tout à fait capables d'apprendre le suédois.
Il y a la question de l'oubli délibéré du bilinguisme et puis il y a aussi la négation de la culture d'origine. Est-ce qu'il y a des pays où justement les enseignants sont formés à cette diversité culturelle?
Alors, exactement. La langue, c'est important parce que ça permet d'accéder à des tas de choses, la langue. Mais ça ne résume pas du tout l'histoire de ces enfants. Alors, pour ces enfants, il y a le récit du parcours, c'est-à-dire à la fois d'où on vient et la migration. Et que ses parents ont été accueillis dans un autre pays. Donc, en fait, il y a trois sources. Et les trois éléments d'où on vient, d'où viennent les parents, on peut avoir accès comme ça à de la géographie, à de l'histoire, l'histoire collective, l'histoire des colonisations, l'histoire du monde, l'histoire des civilisations. Donc, d'où on vient, valoriser cela, le parcours migratoire des parents, qui peut être aussi valorisé, comme du courage, la recherche de liberté, etc. Et puis ensuite, l'accueil, les métissages qu'il peut y avoir lorsqu'on est accueilli dans un pays. Alors, il y a différents pays qui valorisent ces éléments-là. Par exemple, aux Pays-Bas, on va favoriser le fait que dans l'école, il y ait des personnes de la communauté qui ressemblent aux enfants, pour d'une certaine façon que les enfants puissent s'identifier à ces personnes de la communauté. J'ai vu aussi en Europe du Nord, là où il y a des méthodes pédagogiques actives, où on considère que les enfants sont experts, ils sont experts de géographie, de linguistique, ils vont être capables d'expliquer à d'autres enfants l'histoire coloniale, l'histoire des religions, etc. Puisque eux, ils en connaissent une de plus que les enfants qui ne sont pas migrants. Et puis, il y a aussi dans certains pays plus du Benelux, quelque chose qui serait une éducation à la diversité. C'est-à-dire, au fond, pourquoi on n'a pas besoin d'avoir peur des gens qui sont différents, mais au contraire de se dire que c'est des liens supplémentaires.
La pédopsychiatre Marie-Rose Moreau, dont je rappelle le titre de l'ouvrage « Enfants de l'immigration, une chance pour l'école » et c'est aux éditions Fayard. Si la Big City de Londres est réputée pour la flexibilité du travail, elle l'est évidemment moins pour celle des salaires. Pourtant, une entreprise a décidé de prendre le contre-pied de cette logique. La PME S-Markets, qui opère dans les paris en ligne, laisse ses employés choisir eux-mêmes leur niveau de rémunération, carrément, à certaines conditions tout de même. Marie Billon.
Il suffit de mettre un pied dans les bureaux de S-Markets pour se rendre compte que l'employé évolue en toute liberté. À travers les parois en verre des bureaux, on aperçoit des jeunes gens en tongs ou même en chaussettes. Ils travaillent sérieusement derrière leurs ordinateurs posés sur des bureaux à roulettes et ajustables en hauteur. Certains sont perchés sur une sorte de toupie géante. C'est parce que rester debout trop longtemps, c'est mauvais pour la circulation, explique l'un d'eux. S-Markets chouchoute ses employés et a conservé son esprit start-up. La PME a même poussé la liberté plus loin encore. Chacun décide de son propre salaire. Mais ce n'est pas non plus l'anarchie. Tous les 6 mois, en début et milieu d'année, chacun peut demander à ce que ses émoluments soient révisés. Sauf que ce n'est pas le manager qui décide. Il n'y en a pas, de toute façon. Ce sont 5 collègues avec lesquels on travaille tous les jours et à qui on demande « Combien penses-tu que je devrais être payé ?» Pour les aider à trancher, le salarié remplit un formulaire qui détaille pourquoi il pense mériter une augmentation, mais interdiction de proposer un chiffre. Les 5 collègues reviennent ensuite vers lui avec une proposition chiffrée. Si ce dernier l'accepte, tout va bien, l'augmentation est dans la poche, pas besoin de faire valider par un supérieur. En revanche, s'il estime qu'il devrait être plus payé, il y aura d'autres réunions, mais le dernier mot reste à l'employé. La direction des ressources humaines croit en la magie de la transparence, puisque tout le monde connaît le salaire de tout le monde. Difficile de retourner le lundi au travail auprès de collègues qui vous trouvent trop payé. Le copinage est aussi un problème potentiel, mais cette fois, c'est la confiance qui est au cœur du système. Généralement, d'ailleurs, les salariés de S-Markets jouent le jeu.
Bonjour Eve Minot.
Bonjour Catherine.
Alors, l'année prochaine, en 2019, donc, auront lieu les élections européennes. Elles viendront sanctionner une législature marquée une fois encore par la montée des populismes sur le continent, mais aussi par l'événement historique qu'a été le vote du Brexit en 2016. Ce qui pose deux questions, Eve. Comment dès lors se préparent les différentes formations politiques et peut-on encore réinventer la vie démocratique européenne? Une première piste, en tout cas, a déjà été abandonnée en février dernier.
Oui, c'était celle des listes transnationales pour ces futures élections, c'est-à-dire plus concrètement la création de véritables circonscriptions européennes pour redistribuer une partie des sièges laissés vacants lors de la sortie du Royaume-Uni le 31 mars prochain. Une idée qui avait refait surface régulièrement depuis les années 90, portée toujours par les pro-européens, évidemment, parmi lesquels la gauche socialiste un temps, les écologistes et plus récemment par le président français Emmanuel Macron, sans succès. C'est donc, car vous l'avez dit, cette idée a été catégoriquement rejetée par le Parlement européen en février, largement dominée aujourd'hui par la droite, lors d'un vote donc où les eurosceptiques se sont aussi fait entendre.
Alors qu'à gauche, Eve, même sans liste commune, l'idée de programme transnational fait son chemin.
Oui, réunis à Naples le 12 mars dernier, plusieurs mouvements qui se revendiquent progressistes ont lancé un appel à se mettre d'accord sur un programme commun, donc en vue de ces élections, qui devraient prendre vie d'ici le mois de juin sous la forme d'un manifeste traçant, je cite, une voie claire pour une Europe démocratique, écologique, égalitaire et ambitieuse. Était présent ce jour-là à Naples autour du maire de la ville, notamment le français Benoît Hamon, ancien candidat à la présidentielle et fondateur du mouvement Génération, avec un S, ainsi que le grec Yanis Varoufakis, fondateur du parti Diem 25. D'autres partis européens avaient également fait le voyage, Razem pour la Pologne, The Alternative pour le Danemark ou encore Libre pour le Portugal.
Alors certains des futurs candidats font carrément le pari de mouvements pan-européens, Eve, comme Volt Europa, qui espère séduire principalement les jeunes.
Et oui, ces fameux jeunes, si difficiles à mobiliser d'un côté ou de l'autre de l'isoloir. Volt, en référence évidemment à l'énergie, au dynamisme espéré, mais aussi parce que ce mot se prononce de la même façon dans plusieurs langues européennes. La formation, qui a aujourd'hui à peine plus d'un an, est dirigée par un jeune Italien de 26 ans, Andrea Venzone. Au lendemain du vote du Brexit, en 2016, il décide de s'engager en politique avec deux compagnons, une Française et un Allemand, pour lutter contre la passivité des élites politiques européennes actuelles. Leur programme, redonner une âme à l'Europe, raconte-t-il sur le site de notre confrère Café Babel, en commençant, je cite, par l'attribution des pleins pouvoirs législatifs au Parlement européen pour aller au-delà du chantage continu des gouvernements nationaux. La formation compte aujourd'hui plus de 3000 adhérents et espère obtenir des élus dans pas moins de 7 pays. Lancement de la campagne officielle cet automne.
Et l'enjeu est important, hein, car depuis le vote de la Constitution européenne en 2005, l'Europe semble plutôt désintéresser nos contemporains, voire carrément les mobiliser contre elle.
Oui, en effet, difficile de ne pas constater que l'UE a mauvaise presse et même malmenée depuis plusieurs années. Pour certains, elle met en péril les identités nationales. Pour d'autres, elle est à l'origine des politiques d'austérité imposées par les gouvernements. Tous, aujourd'hui en tout cas, s'accordent à dire qu'il faut la changer, qu'il faut la réformer. C'est même une urgence quand on constate que la participation aux élections européennes ne cesse de baisser depuis 1979, pour atteindre quelques petits 40% lors de la dernière échéance en 2014. 40% en moyenne, car c'était plutôt 25% dans les nouveaux pays d'Union, comme on les appelle, hein, plus à l'Est. Comment peut-on dès lors renforcer cette participation et renforcer surtout le sentiment d'appartenance des citoyens européens à Bruxelles? C'est précisément l'enjeu de ces prochaines élections. C'est pas une mince affaire.
Oui, on en reparlera, hein, c'est sûr, l'an prochain. Merci, Eve Minot. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Sono Francesca, ho 39 anni e faccio la portinaia.
Comment reconstruire une vie de quartier avec ses solidarités dans les grandes métropoles européennes? C'est la question que se sont posées trois jeunes Milanaises qui ont donc décidé d'ouvrir un café d'un nouveau genre. Cécile Debarge.
Une terrasse où siroter un cocktail ou déjeuner des produits naturels et de saison, un grand bar où prendre un café debout, comme les Italiens aiment le boire. Le bar Portineria Quattordici a tous les attributs d'une brasserie classique. Un détail près, son nom. Portineria, c'est-à-dire conciergerie en français. Emanuela, Francesca et Federica, les trois Milanaises qui ont lancé le projet, avaient en tête bien plus qu'une simple brasserie de quartier. Dès la naissance du projet, elles ont voulu créer un endroit qui puisse recréer une vie de quartier et du lien social entre les habitants en proposant gratuitement un service de conciergerie. L'idée leur est venue d'un séjour à Paris. À deux pas de la place des Vosges, le petit kiosque Lulu dans ma rue propose un service de conciergerie payant pour les habitants des immeubles où les concierges ont disparu. Les trois amis exportent l'idée à Milan, dans le nord de l'Italie, mais gratuitement. Pertinent quand on sait que par exemple 8 Italiens sur 10 ont besoin d'un point de retrait de leur colis selon une étude de Netcom. Les habitants du quartier peuvent donc se faire livrer un colis, leurs courses ou bien des médicaments. Ils peuvent aussi laisser leur double de clé ou bien trouver une liste d'artisans de quartier prêts à leur faire dépannage et réparation à prix honnête. Pour le moment, le modèle est rentable grâce à l'activité du bar-brasserie ouvert de tôt le matin jusqu'à très tard le soir. En échange, les trois jeunes femmes sensibilisent les usagers à l'entretien des espaces verts du quartier et leur demandent de les aider à garder l'endroit propre, notamment devant l'entrée de la Portineria. Un modèle qui séduit à tel point qu'un endroit similaire a ouvert ses portes à Bologne, le chef-lieu de l'Émilie-Romagne.
À la réalisation, il y avait bien sûr Françoise Grelot. Accent d'Europe, c'est aussi sur RFI.fr et sur notre page Facebook. Restez fidèles à RFI.